Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le père Pierre-Marie Castagnoz, j'ai 66 ans, je suis membre de la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie qui se situe à l'abbaye d'Ourscamp près de Compiègne, c'est la maison mère en tout cas. Et c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années maintenant, pratiquement une vingtaine d'années, où je m'intéresse à ces questions d'amitié, ces questions de préparation au mariage, etc. Donc, quand le bureau de PNC m'a sollicité sur comment surmonter les déceptions, amitié, amour, comment surmonter les déceptions, avec foi, espérance et charité, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'aime bien travailler et j'ai déjà travaillé, et voire aussi accompagné. Donc, peut-être aussi vous dire, c'est intéressant, c'est de recadrer ça dans le cadre d'une formation que j'ai reçue, dont vous connaissez peut-être le nom, la CNV, Communication non violente, il y a un ouvrage qui a été écrit par Marshall Rosenberg, qui était l'initiateur de cette communication non violente, et qui dit une chose qui m'a interpellé, et qui dit au fond, si on mettait cette méthode-là en application partout, il n'y aurait plus de conflit. Et pour moi, ça m'a laissé très perplexe. Puisqu'on parle de déception, donc forcément, potentiellement, on parle de conflit, on parle de désaccord, en tout cas, à un moment donné, de la relation. Je crois que c'est faux de penser à un monde qui soit pas, où le conflit n'est pas sa place. Étonnez pas que dans vos relations amicales ou amoureuses, il y a aussi une place laissée au conflit, voire à l'échec, voire etc., etc. Parce que, précisément, le fait de dire que le conflit existe, c'est faire mémoire de tout ce qui peut être les conséquences du péché originel. Hein. On vient de célébrer le Triduum Pascal, etc. Et vous avez entendu, si vous avez participé aux offices, voilà, c'est une bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Donc on sait bien que en nous, si par le baptême le péché originel est pardonné, mais les conséquences en nous du péché originel existent. Et ça, je crois que c'est important de dire, tiens, il y a le côté relationnel demandera toujours un combat intérieur. Et un combat pourquoi ? Un combat pour plusieurs choses. Premièrement, un combat pour accepter l'autre comme autre que moi. C'est ce qu'on appelle, dans un grand mot, l'altérité. Et ce n'est pas si simple, parce qu'on voit vite la différence comme une menace. Différence de caractère, différence de culture, différence de religion, de peau, etc., etc. On voit vite ça comme une menace. Et je crois que c'est quelque chose auquel il faut s'habituer, que l'accueil de l'altérité, l'autre comme autre que moi, n'est pas spontané. De fait, si Jésus nous demande nous commande, hein, c'est le commandement nouveau, hein, vous savez, hein, nous commande de nous aimer les uns aux autres, ça veut dire que c'est pas spontané, que aimer n'est pas spontané. Et donc, découvrir que dans cet accueil de l'altérité, dans cet accueil de l'autre comme autre que moi, il y a forcément quelque chose qui a à voir avec le combat spirituel. Forcément quelque chose qui a à voir avec... Et donc aussi... forcément avoir avec peut-être des échecs dans le combat spirituel où on n'a pas à accepter justement l'altérité. Et ça me fait penser aussi à les cours que j'ai pu recevoir justement au séminaire, qui était assez classique, et sur la question de la Trinité. Et la Trinité, c'est vraiment le lieu où on voit à la fois qu'il y a une communion bien plus importante qu'entre deux personnes humaines, et à la fois une distinction des personnes divines entre elles, bien plus importante que n'importe quelle personne peut être distincte sur cette terre. Donc, on voit que la différence, l'altérité n'est pas forcément incompatible avec la communion. Mais nous, on a parfois tendance à vivre ça comme ça. Mais ça veut dire aussi, derrière ça, c'est accepter... d'une certaine manière, de ne pas être comblé dans la relation. qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et parfois, il y a des relations qui échouent parce que j'attends de l'autre qu'il me comble. J'attends de l'autre qu'il réponde à mes désirs. Accepter de rentrer dans une relation, quelle qu'elle soit, alors là, on parle d'amicale ou amoureuse, eh bien, c'est forcément accepter une part de frustration. L'autre ne répond pas et n'a pas à répondre à toutes mes attentes. Parce que si je mets l'autre en position de répondre à mes attentes, je le mets en position de Dieu. Et donc là, là on est dans une attitude qui n'est pas juste, donc dans une idolâtrie d'une certaine manière. Et surtout de se rappeler que je n'attends pas l'autre pour déjà être heureux. Hein, je suis heureux, il se trouve que le fait qu'on soit amis ou amoureux, etc. Bon, je fais une petite distinction, il y a une différence de degré entre l'amour et l'amitié, mais il n'y a pas une différence de nature. Et de fait, regardez vos histoires précédentes, si vous, ceux qui en ont eu, la plupart vous en avez eu, ben, ça commençait souvent par une amitié. Donc il y a une différence de degré, mais c'est pas parce qu'on se marie avec quelqu'un qu'on cesse d'être son ami. On est aussi son ami. Donc tout ce qui est dit de l'amour est dit aussi de l'amitié. Il y a une différence de degré, mais il n'y a pas une différence de nature. Hein, et puis évidemment, dans l'amour, il y a une exclusivité, etc. etc. Mais genre, juste pour revenir à la question d'être heureux seul, je crois que c'est important de faire attention à la relation d'aide. Qu'est-ce que j'appelle la relation d'aide? La relation d'aide, c'est... Par exemple, c'est le parent avec l'enfant, c'est le médecin avec le malade, c'est le professeur avec l'élève. Voilà. Je me mets en position de sauveur. Vous savez, il y a trois positions, trois manières d'entrer en relation qui sont toxiques. Hein, ce qu'on appelle le triangle de Cartman, hein, c'est sauveur, victime, bourreau. Hein, je me mets en position de sauveur. Hein, où j'attire des personnes, j'ai vu comme ça, je dis, personne ne me dit, il n'y a que des cassos qui viennent à moi. J'attire les cassos. C'est possible. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Interroge-toi, qu'est-ce qui fait que... Et du coup, la personne, à un moment donné, elle est obligée de couper la relation parce que c'est pas, elle n'a pas vocation de thérapeute, d'être le thérapeute de la terre entière. Donc, du coup, voilà. Et donc, c'est sûr que c'est important d'être attentif, de ne pas tomber dans une relation d'aide. Et il y a beaucoup de gens qui sont, surtout dans le monde catholique, qui sont très généreux, mais parfois une forme de naïveté, qui ne voient pas la difficulté de la relation, qui ne voient pas que cette personne-là porte une difficulté, et vous n'êtes pas forcément la bonne personne, parce que n'oubliez pas que dans une amitié, comme dans un amour, il faut une réciprocité. Il faut une réciprocité. Ça, c'est absolument indispensable. Pas de réciprocité, pas d'amitié, pas d'amour. C'est-à-dire, il faut que chacun puisse donner et recevoir, et que ce ne soit pas le même qui fasse locomotive et le même qui fasse wagon. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui est important, parce que précisément c'est ça qui va parfois faire que la relation se lasse, il y a une sorte de lassitude. Je pense pas qu'une personne ait un épisode dépressif, du coup je me mets avec cette personne, ou je suis ami avec cette personne, et cette personne-là se me met dans une situation de sauveur, de vouloir régler ses problèmes. Comme j'ai bon cœur, si vous êtes ici, si vous avez bon cœur, je vois vos bonnes têtes, donc comme j'ai bon cœur, bah forcément, je vais me donner sans compter, je vais l'écouter des heures, ça te dingue, etc. Mais en fait, je ne suis pas du tout à ma place. Je ne suis pas du tout à ma place. Et ça, si vous avez peut-être vécu en amitié, etc., des personnes qui, c'est même inquiétant, dès la première rencontre, se confient, mais absolument toute leur vie, étalent leur vie, même la plus intime, etc., et racontent, et se racontent, etc. Et vous dites, ben là, vous voyez, clairement, il y a un warning. Cette personne-là, elle n'est pas dans une maturité, si vous voulez. Donc, c'est des gens qui peuvent aussi vous épuiser. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, c'est... Déjà, pour aider des personnes qui sont en difficulté, il ne faut pas être seul. D'où l'importance d'associations. Il y a des associations d'aide de personnes en fragilité psychiatrique, en fragilité économique, etc. etc. Mais attention à ce syndrome du sauveur dont on est assez souvent responsable dans l'Église parce que, précisément, on a dans ce mode cet exemple de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, etc. Alors, il y a toutes ces phrases-là qui retentissent en nous. Et du coup, très vite, on rentre dans un mode sauveur et on s'épuise. Et ça épuise la relation. Donc, rappelez-vous toujours, une relation amoureuse ou amicale, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. C'est une relation qui demande la réciprocité. Hein, la réciprocité. Et aussi qui demande quelque chose regardez bien dans vos histoires amoureuses ou amicales, les relations amicales, eh bien, c'est des personnes avec l'intelligence desquelles vous avez une communion. Moi, je crois beaucoup à ça, la communion des intelligences. C'est-à-dire la communion des intelligences, c'est-à-dire que s'il faut expliquer les blagues à l'autre, ça peut être tendu, si vous voulez, parce que ça peut, une fois, deux fois, etc. Et je me rappelle comme ça un couple où j'avais vu, c'est ça, une grande différence comme ça entre elle était très solaire, très percutée très vite, etc. Lui beaucoup plus à peiner beaucoup plus. Donc, c'est vrai, on n'a pas tous la même intelligence. Du coup, moi, je les ai alertés sur cette question-là. Je dis, tiens, est-ce que tu as vu que ta fiancée est plus intelligente que toi, par exemple? Mais moi, je suis comme ça que ça se passe, sinon on n'avance pas. Donc, elle pleure, lui, non, c'est normal. Donc, du coup, Et puis finalement, elle dit, mais moi, c'est un homme qui a une grande bienveillance, etc. Quand je suis sorti avec des garçons qui étaient un peu en mode grande école comme moi j'étais, etc., c'était toujours la compétition. Bon, voilà, donc, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas très simple à vivre non plus. Hein, mais d'être attentif à ça, de dire, dans l'amitié comme dans l'amour, les déceptions peuvent venir justement qu'on n'a pas cette communion de l'intelligence, on ne se sent pas compris de l'intérieur, on ne sent pas que la personne. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, cette question d'intensité de la relation, du coup, l'autre fait miroir, j'ai marqué ça, l'autre fait miroir et me renvoie à moi-même. Réfléchissez les échecs que vous avez eus dans vos relations, soit amicales, soit amoureuses. C'est toujours bien de faire. C'est aussi des lieux d'apprentissage. Moi, je ne le vois pas forcément comme négatif. Hein, je demande souvent dans les préparations, mais vous avez d'autres histoires, d'autres partenaires, etc. Bien souvent, c'est oui, parce qu'ils ont grosso modo votre âge, donc c'est autour de la trentaine, etc. Et je dis, ça fait partie aussi de l'apprentissage, de dire qu'est-ce qui me correspond comme personne, comme ami, comme style d'ami, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me. Donc, soyez attentifs, peut-être ça peut être l'occasion ce soir de faire mémoire de justement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a bugué dans vos amitiés ou dans vos amours, qu'est-ce qui a bugué et à quoi c'est dû. Et en quoi il y a quelque chose qui ne correspondait pas, qui ne matchait pas entre nous deux? Donc c'est bien de faire mémoire de ça et de dire, du coup, ça me renvoie aussi à un travail sur moi-même. Nous n'échapperons pas, vous n'échapperez pas, nous n'échapperons, moi qui vis en communauté, c'est ce que je dis de ça, je le dis de moi aussi en communauté, c'est exactement pareil. Alors, en communauté, c'est plus touchy parce que tu vis avec des gens que tu n'as pas choisi et surtout que tu n'aurais pas choisi peut-être. Donc du coup c'est bon et du coup tu te retrouves dans une certitude. Mais bon, tu as choisi la vie religieuse et la vie religieuse c'est le principe. On vit avec des gens que l'on n'a pas choisi. Donc on rentre dans un charisme unique, etc. Au début, on idéalise beaucoup. C'est comme au niveau d'une amitié, on idéalise beaucoup. Et puis après, on prend conscience des fragilités, des blessures des uns des autres, etc. Donc, et forcément, moi, ça fait un écho à ce que je suis. Le problème n'est pas d'abord l'autre. Alors, c'est différent de la vie religieuse, c'est un caractère très particulier. Mais de dire, tiens, qu'est-ce qui fait que telle amitié, telle relation n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que ça... Est-ce que ça a été la difficulté de rester seul? Du coup, j'ai voulu me lancer dans une histoire pour ne pas être seul. Et je trouve que c'est important de dire que si vous êtes heureux en amitié et en amour, c'est que vous êtes aussi heureux seul. Où est-ce que vous êtes de cette solitude? Alors peut-être, bon, si vous êtes célibataire, que le certain cas d'entre vous, et c'est vrai que c'est, je sais que c'est complexe à gérer, etc. Mais c'est important d'être heureux seul. Hein, et surtout de ne pas mettre l'autre à la place de Dieu en attendant qu'il vienne combler mes espoirs, mes attentes, parce que ce serait quelque chose qui serait pas en place, parce qu'il y aurait quelque chose qui ne marcherait pas. Donc dans cette découverte de moi-même, je découvre aussi mes blessures. Hein. Vous connaissez les 5 grandes blessures, hein, que ce soit l'abandon, injustice, rejet, humiliation, trahison. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on appelle les grandes blessures. À quoi est-ce qu'on voit qu'il y a une blessure? C'est qu'on surréagit. On surréagit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre une parole qui est dite et la réaction de la personne. Par exemple, vous me dites, je n'aime pas le marron. Alors, il se trouve que notre ami est marron. Alors, je me dis, mais je me mets dans des tas pas possibles, à crier, à hurler, ça. On dit, il y a un problème là. Je n'aime pas le marron, les goûts, les couleurs. Bon, voilà, c'est un peu pareil. C'est la personne. Vous lui dites quelque chose, elle surréagit. Donc, du coup, c'est intéressant. Ou vous surréagissez face à telle ou telle attitude de votre ami qui vient faire miroir, justement. Donc, c'est intéressant de voir la blessure. Et il faut bien distinguer la blessure du péché, parce que la blessure, elle est involontaire. Elle vous fait réagir, par exemple la colère, par exemple la tristesse, ou effondrer en larmes, etc. Mais c'est pas volontaire, ou elle vous fait monter dans les tours, bref. Mais en revanche, si le premier mouvement t'échappe, que le deuxième, qui est de demander pardon pour l'excès que j'ai eu de réaction dans cette attitude-là, ne t'échappe pas. Et ça, je crois que c'est important de le dire, c'est que ça ne t'échappe pas d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est là aussi que toute la place du pardon dans notre vie. Hein, du pardon, vous faites bien la différence entre pardon et réconciliation. Le pardon, c'est d'abord une démarche personnelle, humble, qui fait que je sais que peut-être que s'il y a eu une maladresse, une parole malheureuse dans mes propos qui a pu blesser l'autre, etc., ben, je trouve ça intéressant de pouvoir être attentif à ne pas être aller demander pardon et voilà à quoi on voit que nous si on a été offensé on a pardonné. Mais je crois qu'il y a deux choses qui peuvent vous aider. Premièrement, c'est vous pensez à celui qui vous a offensé paisiblement quand vous le visualisez. Imaginons vous le rencontriez plus. Hein, vous le visualisez, etc. Bon, vous pensez à lui, parce que parfois, quand la blessure est arrivée, il y a toute une colère, une voix, une violence, au plus fort, une haine qui peut être contre l'autre, bon, c'est vraiment le plus fort. Mais en tout cas, quand il y a un pardon, il y a un apaisement. Je pense à l'autre, paisiblement, je me réjouis de ce que l'autre vit de bien. Hein, s'il a eu une promotion, ben, tant mieux pour lui, je m'en suis content pour lui. Et je m'attriste de ce qu'il a pu vivre, au contraire de ce qu'il peut vivre et qui est douloureux. Si j'apprends que quelqu'un m'a offensé et qu'il a un cancer et que vous dites au moins il y a une justice sur Terre, là peut-être vous n'avez pas complètement pardonné. Vous voyez, donc vous n'êtes pas encore dans un apaisement complet. Donc justement, l'apaisement, je dis je suis triste, j'ai appris ça. Alors, sans peut-être forcément lui dire, mais bon. Donc c'est intéressant de voir là. Et la réconciliation, il faut au moins être deux. Parce qu'on peut pardonner sans se réconcilier. Parce que la difficulté, il y a des personnes qui ne reconnaissent pas qu'ils ont blessé. Ou alors des personnes qui, pour X raisons, sont un défunt, quelqu'un de votre famille ou un anneau, et qui vous a blessé pour ceci, pour X raisons, c'est compliqué de de se réconcilier, etc. Donc, mais un pardon est toujours possible, sachant aussi que le christianisme prêche une certaine modestie par rapport au pardon. Vous voyez, ça prêche une certaine modestie par rapport au pardon. C'est le geste avant-coureur où Dieu sera tout en tous. Mais restons modestes dans ce geste qui est humble, de pardonner, de demander pardon et de pardonner, mais sachant que on revendique pardonner, c'est pas oublier, c'est pas être amnésique, Jésus ne nous demande pas d'être amnésique, mais on s'appuie sur le mal, sur la souffrance pour revendiquer la communion. On revendique la communion, ce n'est pas la souffrance qui aura, et le mal et l'offense qui aura le dernier mot, c'est pas ça, parce que là c'est voilà. Et je trouve ça très beau de voir que les blessures que l'on peut avoir dans nos histoires précédentes, dans vos relations amicales, amoureuses, etc., ces blessures-là peuvent être fécondes. Qu'est-ce que vous avez appris de ces blessures-là, de faire mémoire de ces échecs, de ces... Voilà, et moi, on est dans la semaine de Pâques, etc., et encore tout empreint de la liturgie du Triduum Pascal, etc. Bon, et moi, j'aime bien voir cette Jésus qui ressuscite avec les marques de ses... De sa passion, hein, mais il dit à Thomas, mets ta main dans mon côté et tes doigts dans les traces des clous, hein, ne cesse d'être incrédule, sois croyant. C'est-à-dire que Jésus, quand il ressuscite pas impeccable, il ressuscite pas voilà bodybuildé, etc. Non, il ressuscite avec ses plaies, mais ses plaies qui sont lumineuses. Donc je trouve que si vous-même vous avez été blessé, et on l'est régulièrement, je veux dire, dans nos amitiés, dans nos amours, si vous avez été blessé par telle ou telle réaction d'un ami, etc., bah, de dire en quoi ça peut être aussi, cette réaction-là, cette souffrance-là, peut porter du fruit. Qu'est-ce qui fait que ça peut porter du fruit? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Mais qu'est-ce qui peut que ça peut porter du fruit? Et je crois que c'est ça qui va vous aider aussi à être attentif, à se décentrer, parce que quand il y a une déception dans l'amour, dans l'amitié, il y a une forme d'autocentrage un peu habituel. On se pense, on est dans la tristesse, on ressasse, on voit la colère qui monte un peu dans le cœur, parce qu'on sent que c'était injuste. Vous savez, n'oubliez pas que la colère est très liée à l'injustice. L'injustice et la colère sont très liées. Les gens qui sont colériques sont des gens souvent qui sont très sensibles à la justice. Donc je crois que c'est intéressant de dire, voilà, ce travail sur soi-même et d'inviter aussi à ce temps de pardon, d'apaisement, qui se fait avec le Seigneur aussi. Je crois que c'est... qui se fait aussi dans la contemplation de l'espérance. Moi, j'aime beaucoup ce document de pape Benoît XVI, vous savez, sur l'espérance, qui commence un petit peu à dater, mais qui est un très beau document sur l'espérance. J'aime beaucoup comme il écrit, etc., et comme il écrivait, plus exactement. Et il dit, voilà, si on n'a pas la grande... Face aux grandes catastrophes de l'histoire, avec... un grand H, aux petits inconvénients de tous les jours, si on n'a pas la grande espérance devant nous, de quelque chose de plus grand que nous, d'un ailleurs, d'un au-delà, de quelque chose qui nous emmène plus haut, ben comment se sortir de cette souffrance? Et c'est la grâce des chrétiens. Les chrétiens ont un regard face au mal et à la souffrance que n'ont pas les autres. Parce que précisément, l'exemple du Christ leur donne de ne pas désespérer. Ils sont victimes comme les autres de la souffrance et du mal, mais c'est important d'être attentif à ça et de se rappeler que c'est aussi le Seigneur qui nous a donné, par son pardon, d'avoir un autre regard. Hein, un autre regard, je vous rappelle, c'est cette parole de Jésus, hein, alors qu'on interprète, je trouve, à tort, parce que souvent on l'interprète de façon doloriste, hein, si on te frappe sur la joue droite, tend aussi la joue gauche. Et moi, j'interprète, si on te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche, c'est-à-dire montre un autre regard. Et un autre regard sur le mal. ne reste pas avec ton regard de la joue droite. C'est pas. Non, c'est. Moi, mon interprétation, c'est ça. C'est montre. Tu as un autre regard sur la souffrance. Tu ne te laisses pas complètement abattre par le mal, etc. Tu as, et c'est le regard du chrétien. Hein. Le chrétien, comme les autres, il est éprouvé. Pas plus, pas moins, mais bon, en tout cas, il est éprouvé. Mais il a un autre regard sur le mal. Il a un regard voilà, qui est mu par l'espérance. Et, hein, que le Seigneur vient habiter. Hein, ça, c'est tout le mystère du mal. On ne va pas le traiter ce soir, évidemment. Mais c'est important, si vous êtes dans une période de tristesse, voire de rancœur, le Seigneur vient habiter aussi nos souffrances, vient habiter nos blessures. Hein, dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Et de dire, voilà, de ces blessures-là, même si c'est des blessures qui touchent très profond, parce que les blessures qui touchent à l'amitié et à l'amour, c'est des choses très profondes, qui vraiment... des gens qui parfois perdent pied, quoi, ou ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas marché, ou pourquoi ça, ceci, pourquoi cela, etc. Je crois que c'est quelque chose qui est important, ça, d'être attentif à cet aspect-là des choses. On peut aussi, une amitié, un amour peut déraper parce qu'on n'est pas d'accord sur les objectifs. Hein, c'est Aristote, hein, que je me suis formé à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, Aristote qui disait, il y a trois objectifs à une relation, l'agréable, l'utile et la bienveillance. On peut être juste ensemble parce que c'est agréable. Bon, c'est agréable, c'est très bien, je me souviens de ça, cette jeune femme qui était partie pour Londres, etc., et rejoindre son ami, et bon, ils sont en vie commune, etc., passent un an, deux ans, etc., trader, gros niveau de vie, etc., bon, et elle lui dit, on fait quoi maintenant, quoi ? On n'est pas bien. Allez, un clic, on va à Porto, un autre clic, on va à Rome, un troisième clic, on va à New York. On n'est pas bien, là. Tu me parles de quoi ? De mariage, d'enfant, tu me parles de quoi ? Oui, et donc, l'arrêter, parce qu'ils n'étaient pas du tout raccord sur l'objectif de leur amitié, en l'occurrence de leur amour. Ils n'étaient pas d'accord sur l'objectif. Et ça arrive bien plus souvent que ça, qu'on ne le croit. Lui, il était pour l'agréable. C'était sympa, c'est une femme tout à fait agréable. Lui devait être aussi très sympa, etc., vivre. Bon, mais ça va bien comme ça. Hein. Ou alors l'utile, tu as une voiture, mais pas de permis. J'ai un permis, mais pas de voiture. C'est l'utile. Mais regardez, nombre d'histoires se sont fondées comme ça dans le cadre professionnel. Parce que le cadre professionnel, c'est un cadre d'utilité. Vous êtes, c'est pas parce que c'est agréable que vous êtes dans une entreprise. Alors, tant mieux si ça l'est pour vous. Mais c'est d'abord une utilité. On attend de vous quelque chose qui donne. On attend de vous des contenus, on attend de vous un travail qui va aider d'autres personnes, etc. Donc, une utilité. Votre travail est une utilité. Parce que sinon, rien de pire de se sentir inutile. Et donc, il y a des amitiés qui se forgent autour de ça, des amitiés qui se forgent autour de l'utilité. Hein, il peut y avoir des évolutions. Et il n'est pas, je pense, là, je vais. Travailler là-dessus, de dire il y avait à peu près 13% des couples qui se formaient dans le monde professionnel. Hein, parce que justement, ils passaient de. On a la même équipe, parfois le même niveau de formation, peut-être les mêmes valeurs, etc. Et on passe plus de temps avec ses collègues que son conjoint, donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas plus, ça bon. Tu commences une phrase, je la termine, etc. Donc, tout ça en regardant la grande ours. Donc, avec des yeux de merlan fleuri, donc vous dites, tiens, oui, il y a peut-être plus. C'est intéressant de dire. Et la bienveillance, c'est vouloir le bien. C'est ça que ça veut dire, bienveillance, vouloir le bien. On est dans une logique de don. bienveillance, on est dans une logique de don. Donc, c'est intéressant de dire, c'est voilà, ça, qui est vraiment la manière chrétienne de voir la relation amicale, de don réciproque, hein, amicale et amoureuse. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant de travailler là-dessus. D'être attentif aussi à un autre point dont on parle relativement peu, mais ce qu'on pourrait appeler les conflits de loyauté, qui peuvent intervenir dans les relations. Qu'est-ce que c'est que les loyautés ? Les loyautés, c'est vouloir correspondre aux attentes des personnes qui nous ont fait du bien. Hein, correspondre aux attentes des personnes qui nous ont fait du bien. Typiquement, ben, en général, les parents veulent du bien pour leurs enfants. Et l'enfant n'a de cesse quelque part de rembourser de cette dette de la vie et de l'amour en correspondant aux attentes des parents. Hein, donc, et qu'est-ce qui se passe quand chacun a son propre système de loyauté, donc on veut correspondre aux attentes des autres, et qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit ? Je pense à plusieurs conflits. Déjà, quand avec votre ami ou votre amoureux, ex amoureuse, ben voilà, chacun veut redonner à son propre système de loyauté, mais on ne peut pas donner en même temps à deux personnes différentes la même quantité de choses. Donc si l'autre dit, mais non, je préfère aller passer du temps avec ma grand-mère, et l'autre dit, non, je préfère ceci, etc. Du coup, il peut y avoir des conflits de loyauté uniquement dans l'agenda. Mais ça peut être des choses plus difficiles, comme par exemple ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu, la parentification. La parentification, c'est devenir parent de son parent. Alors, non pas parent de celui qui est dans le grand âge, ou l'âge de vos grands-parents. Bon, évidemment, quand on est dans le grand âge, c'est normal qu'on soit... Mais des gens qui ont à 10 ans, 15 ans, etc., ont senti qu'un de leurs parents était en fragilité et a pris la place de ce parent-là et s'est occupé de la famille. Et donc, du coup, ça crée une certaine culpabilité, qui fait que la difficulté de prendre soin de cette personne-là est plus grande que dans d'autres cas. Ou alors, c'est ce qu'on appelle aussi les injonctions paradoxales. Des personnes que vous ne pouvez jamais les satisfaire. Hein, une personne vous offre une cravate verte et rouge, vous mettez la rouge, ah, t'aimes pas le vert, mettez la verte, t'aimes pas le rouge. C'est typiquement ça, c'est des personnes qui se rappellent les injonctions paradoxales. Donc, et ça, c'est des sources d'échec dans les relations. Ce qui fait qu'une relation, il faut harmoniser les loyautés, parce que revisiter les loyautés, c'est aussi revisiter sa culpabilité. C'est forcément, hein, c'est ce que l'on doit à ceux qui nous ont aimés, etc. Donc, un autre point qui peut être aussi intéressant à travailler, c'est la question de l'emprise. Si vous avez été, comme de plus en plus on voit des cas comme ça, sous emprise d'une personnalité narcissique. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Une personnalité narcissique, c'est une personnalité qui, vous êtes pour elle, cette personne-là, un pion qui vient juste combler un manque. Mais votre vie, à vous, ne l'intéresse pas vraiment. Cette personne-là vient satisfaire, en fait, ce qu'on appelle une faille narcissique, dans le langage de psy, une faille dans la construction d'elle-même. Et elle prend les autres pour combler cette faille, mais en fait... Et donc s'appuie sur les autres, les utilise et les culpabilise. Si vous êtes dans une relation où vous êtes culpabilisé, mais fuyez à tout enjamber. Parce que vous êtes potentiellement face à une personnalité narcissique, quelqu'un qui, potentiellement, hein, mais qui vous culpabilise sans raison. Hein, et qui, voilà, c'est jamais assez bien, c'est jamais, etc., etc. Et donc ces personnalités narcissiques, je crois que c'est des personnalités qui... Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? J'en sais trop rien. En tout cas, qu'on en parle plus qu'avant, oui. Que des cas d'emprise, on a vu ça aussi dans l'Église aussi, des cas d'emprise. On parle maintenant d'abus spirituels, par exemple. Hein, on parle de, Beaucoup un certain nombre de fondateurs de communautés étaient considérés comme des personnalités narcissiques, mettaient les gens sous emprise et utilisaient ce pouvoir spirituel, qui est la blessure la plus grande, au fond, hein, pour manipuler les autres. C'est les manipulateurs. Hein, c'est intéressant de voir le manipulateur. Vous le découvrez, déjà, quand vous avez été, une fois que vous avez été en contact avec un manipulateur, tout de suite, il y a un radar qui s'allume et vous voyez qui peut être manipulateur autour de vous. C'est tout de suite. Et une des caractéristiques du manipulateur, qui est une personnalité narcissique, comme je dis, essaye de combler sa faille avec vous, mais vous, vous ne l'intéressez pas. Et surtout, il crée une division. Alors que le service dans l'entreprise s'entendait plutôt bien, une personne arrive et met la zizanie. Parce que le manipulateur, c'est ça, c'est tu es contre moi ou tu es pour moi. Mais si tu es pour un tel, tu ne peux pas être pour moi non plus. Il faut que tu choisisses. Alors, ce qu'on voit bien souvent dans les cas plus dramatiques, des séparations, hein, ou des enfants. Alors, si tu aimes papa, c'est que tu n'aimes pas maman. Si tu aimes maman, si tu n'aimes pas papa, etc. Bon, là, évidemment, l'enfant, ça le détruit énormément. Mais pareil, des personnes dans le milieu professionnel qui arrivent et engendrent une scission comme ça dans le service, alors que c'était pas le cas avant. Donc, et demandent de choisir son camp. Et pareil dans les relations amicales. Il peut y avoir ça aussi dans les relations amicales. Vous sentez qu'il n'y a pas une liberté. La personne voit, et c'est encore pire, en invoquant le nom de Jésus, vous dit tu pourrais faire telle chose, tu pourrais faire telle chose, là, des choses bonnes, mais sans jamais solliciter votre liberté. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Hein, c'est ce qu'on appelle l'abus spirituel. Tiens, j'ai pensé pour toi que ce serait bien que tu fasses ça. Comme c'est une bonne chose, la personne n'y connaît pas grand-chose ou découvre la foi ou que sais-je, elle y va. Mais en fait, finalement, c'est une manipulation spirituelle au bénéfice de celui du manipulateur. Quoi. Donc, je trouve que c'est intéressant de dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu... Est-ce que je me suis rencontré face à ces réalités de personnes... qui culpabilisent, qui sont manipulatrices. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai pu avoir aussi à fois à faire et comment je m'en suis sorti et comment j'ai pu aussi quelque part découvrir que je n'étais pas amené à être attentif à ces personnes-là et que dans les prochaines relations, dès que je vois qu'une personne me culpabilise, tout de suite, j'ai quelque chose qui me retient. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les formes de déception, les formes de comment un peu discerner aussi par rapport à ça, comment alors que les débuts souvent sont très enthousiastes, etc. Et du coup, après, eh bien, il y a plutôt on voit des choses qui ne vont pas, etc. Qu'est-ce qui fait partie du combat spirituel, d'accueillir les défauts de l'autre? Ou d'autres choses qui sont vraiment une toxicité, qui ont rendez-vous et de laquelle il faut s'éloigner. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions, les uns et les autres, ou des témoignages.
Merci pour la conférence. J'avais juste une petite question. Est-ce qu'on peut dire que vouloir décider pour l'autre ou les autres, c'est une forme d'emprise?
Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir. Merci pour cette question parce que c'est dans les exercices de Saint-Ignace, celui qui accompagne s'interdit même de faire des propositions. Imaginons, vous connaissez les exercices de Saint-Ignace, etc. Souvent c'est sur une semaine, et donc l'exercice de discernement, où est-ce que le Seigneur m'appelle, parfois c'est discernement d'état de vie, de vocation, etc., de discernement professionnel, etc. Et c'est quelque chose qui est très fort chez Saint-Ignace. Il dit, l'accompagnateur, alors là, on ne parle pas pas forcément d'accompagnateur, mais s'interdit de faire une proposition. S'interdit absolument de dire, bah, tiens, je te verrai bien là, je te verrai, etc. etc. Alors, là, dans ce que tu dis, c'est peut-être un autre cadre. Maintenant, il faut peut-être aussi voir en fonction du cadre. Si c'est un cadre amical, il peut y avoir de l'ordre du témoignage, mais il faut être, surtout si on sent qu'on a un ascendant sur l'autre.
C'est parce que je pense à quelqu'un en boulot qui est très sympa et en fait, qui a cette, à qui je m'entends bien, c'est comme une forme d'amitié. C'est une dame qui est un peu plus jeune que ma mère. Voilà,
oui.
Et en fait, elle a un côté très sympa et en fait, ben je me dis, mais en fait, c'est comme si elle avance dans des choses où en fait, parfois, elle en vient à vouloir choisir ou décider pour moi des choses. Alors, c'est sous forme de proposition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, je me dis, ah, c'est cool. Et puis après, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie.
Oui.
Enfin, j'ai envie de décider, j'ai envie de. Et mais après, je me retrouve un peu, je sais pas comment le dire.
Parce que c'est un très bon exemple. Tu vois, en plus, il y a un ascendant hiérarchique, je suppose, donc.
Non, mais elle est là depuis, je suis arrivée il n'y a pas longtemps, elle est là depuis 15
oui,
ans.
Oui, de 15 ans, donc elle a un ascendant affectif, on peut dire, une reconnaissance et quelqu'un, bon. Bah, ce qui veut dire une personne comme ça, et souvent ces personnes-là ne veulent pas forcément mal faire, mais déjà, parce qu'elles ont beaucoup d'expérience, donc du coup, elle dit, bah, tiens, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, etc. Toi, tu arrives dans une boîte, etc. Bon, je crois que c'est... de dire, ben, tu l'as très bien dit, moi j'en ai pas envie. Et de voir quelle est sa réaction. Ben, je pense, je vois les choses autrement. Mais un grand merci pour le conseil, etc. Je vois les choses, d'autant plus qu'il n'y a pas de hiérarchie, de lien hiérarchique. Je vois les choses autrement. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un warning, il faut que tu allumes les radars pour dire, tiens, dès qu'une personne arrive, tout de suite, ben, cette personne-là dit, ben, voilà, je vais être. Parce que ça peut être une forme de défaut aussi, de vouloir, parce que tu es la petite jeunette, etc., elle a 15 ans de boîte, elle a un âge proche de ta maman, etc. Donc elle sent que, bon, c'est pas forcément par malice, mais je pense que c'est pas... Mais il y a quelque chose d'excessif, une sorte d'intrusion, de... Oui.
Pardon, l'intrusion, quelque chose dont je ne me rends pas compte tout de suite parce que je trouve ça gentil au départ.
Et c'est souvent comme ça.
Voilà. Et après, je me dis, ben non, en fait, ça devient, en fait, j'ai l'impression de parfois de ne pas pouvoir mettre des barrières et ça me gêne parce que ça me gêne d'autant plus que je pense qu'elle a un très bon fond.
Et oui.
C'est là où l'ajustement est délicat.
Mais il y a un côté intrusif.
Oui.
Ben, du coup, une personne comme ça. Il faut un peu avoir une hypervigilance. Tu la vois arriver, tu dis tout de suite, tu embrayes le radar, et tu vas voir, et avec autant de gentillesse, tu dis ben, je vais y réfléchir, est-ce que je peux y réfléchir, etc. Est-ce que je peux. Voilà, ce qui fait que. Et d'arriver avec ta proposition, parce que tu grandiras jamais professionnellement si toi-même, tu n'as pas tes propositions. Si tu es que dans les chaussures d'un autre, d'une certaine manière. Donc, ça n'irait pas, je crois que ça. Mais comme c'est ça, c'est souvent des personnes qui ont un très bon fond, qui, etc., et qui veulent conseiller, qui, finalement, c'est une emprise, et la personne, on ne lui demande pas son avis. Quoi.
Merci beaucoup.
Et tu imagines ça quand il s'agit de personnes de spiritualité. Là, c'est puissance 10. Imaginons un jeune... La nuit de Pâques, etc., un néophyte, c'est-à-dire qui vient d'être baptisé, vous êtes plus enraciné dans la foi que lui, ou il vous voit plus. Et vous dites, ouais, tu devrais faire ça, tu devrais. Et c'est parole d'évangile, quoi. Si lui, en plus, si c'est un prêtre, alors là, ça c'est le sommet, là. Donc, il faut faire très attention à ça, d'être attentif, de dire, bon. On peut devenir manipulateur sans le vouloir, ou avec des très bonnes intentions, hein, tout simplement parce qu'on est intrusif, parce qu'on voit le bien, mais on ne se pose pas la question de est-ce que c'est vraiment le bien pour cette personne, quoi. Et surtout, on dit, ben, prends le temps de réfléchir, sois complètement libre, etc.